Le soin de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer por eso?
Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo.
El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps. Bon, bonjour à tous, merci d'être présents, présentes. Nous sommes ici pour une table ronde, donc c'est le premier événement du CLAP 33 pour le mois de mars, mois contre les violences d'État et le racisme systémique. Nous avons pour titre de cette table ronde « Comment l'État nous violente ?». Alors on va d'abord présenter nos invités. Donc nous avons avec nous Pinguine, Raphaël, Alice et Estelle qui va arriver en cours de route, qui va nous rejoindre. Et avec AZ, du coup, nous allons présenter le CLAP 33 et un peu les enjeux qui nous amènent ici aujourd'hui.
Du coup, le CLAP 33, pour son histoire, le 19 mars 2009, à Bordeaux, Myriam est tombée évanouie après avoir reçu un coup de matraque.
Myriam Ecker, du coup.
Oui, Myriam Ecker, oui, qui est conseillère municipale aussi. Elle a été violemment passée à tabac par 4 policiers alors qu'elle participait à un rassemblement de soutien à un squat en train de se faire expulser. 2 mois plus tard, en réaction à cet acte barbare, le collectif contre les abus policiers, CLAP 33, voyait le jour. Depuis 15 ans maintenant, notre collectif soutient et accompagne les personnes victimes de violences policières, les familles endeuillées dans leur parcours judiciaire, autant que les militants syndicalistes, gilets jaunes, qui subissent la répression. Depuis 2010, nous organisons la marche internationale contre les violences d'État et le racisme systémique, en lien désormais avec le réseau national d'entraide, vérité et justice, que nous avons contribué à créer en 2020. Cette année, la marche aura lieu le samedi 16 mars 2024, donc. En plus de cette marche, on vous propose plusieurs rendez-vous autour des thématiques des violences d'État et du racisme systémique pendant tout le mois de mars. Il y aura des projections, débats, concerts, loto, et aussi des moments de réflexion, mais aussi festifs. Nous avons conçu un programme dans le but de mettre en avant les luttes locales et d'informer largement sur l'état policier et la société de contrôle qui nous régissent. Donc c'était la présentation du CLAP.
À savoir que le CLAP 33 et Myriam Ecker particulièrement sont régulièrement victimes de répression d'État. Ça a été le cas en juin dernier, notamment juin 2023. Le 17 juin, donc 3 jours après, c'était 3 jours après la mort de Alassane Camara, et le jour de l'anniversaire de la mort de la Mindienne tuée par la police, alors que le collectif avait déposé le rassemblement auprès de la préfecture. Le rassemblement a été interdit sans que le collectif en soit averti. Et la police s'est rendue, donc on s'était réunis à Péberlan pour rendre hommage donc à la famille, enfin à la Mindienne, à la famille de la Mindienne et à toutes les familles endeuillées de toutes les personnes tuées par la police. Et la police de Bordeaux nous a amendés à tour de bras. Et la semaine d'après, quelques jours après, donc il y a eu aussi la mort de Naël. Et une semaine après, le 22 ou 24 juin, on s'est re-rassemblés pour le Place Péberlan pour réaffirmer notre soutien à la Mindienne, à toutes les familles endeuillées, et pour manifester notre revendication de la liberté de manifestation. Et on a été de nouveau soumis à des amendes d'eux. Et d'ailleurs, plusieurs camarades de notre collectif passeront le 5 mars, donc ce mardi, devant le tribunal. Donc rendez-vous à Palais de Justice à 8h30 pour soutenir nos camarades ce mardi 5 mars. Voilà un peu pour l'état des lieux. Myriam Ecker aussi a été victime d'une nouvelle garde à vue, c'était en septembre ou octobre 2023. Son procès est le 15 mars et il y aura également un rassemblement à 15h pour la soutenir. Et elle est vraiment victime d'un harcèlement policier constant. Et nous, on l'a bien vu dans l'organisation de tout ce mois-ci que c'était très dur en fait d'organiser des événements parce qu'il y a beaucoup de lieux qui craignent d'organiser avec nous parce que des pressions de la police, parce qu'on a mauvaise presse auprès de la police forcément vu qu'on dénonce les abus qu'ils commettent. Et on essaye notamment de faire du lien avec les quartiers et toutes les actions qu'a présentées Edouard. Et on est constamment réprimé dans cette tentative d'action. Mais aujourd'hui, du coup, la thématique de cette table ronde, c'est comment l'État nous violente. Donc on va parler de différentes oppressions systémiques, pas toutes malheureusement, parce que certains invités n'ont pas pu venir.
Dans tous les cas, ça n'aura pas été exhaustif.
Dans tous les cas, oui, ça ne l'aurait pas été. Je vais laisser mes invités se présenter une. Donc je ne sais pas dans quel sens vous voulez tourner, mais qui souhaite prendre la parole Ok.
Bah moi, je peux y aller. Je m'appelle Marion, alias Penguin. Mon militantisme a d'abord été très féministe et LGBT, et c'est par cette porte d'entrée que j'ai commencé à m'intéresser à l'antivalidisme, qui concerne donc la discrimination des personnes handicapées. Et maintenant, je produis des contenus sur Instagram, majoritairement des posts de sensibilisation et... J'aimerais continuer à faire plus d'ateliers, etc., autour de ces thématiques aussi.
Ok, merci.
Alors, moi, c'est Raphaël. J'ai un handicap aussi. Je suis une personne transféminine. Et c'est vrai qu'avec toutes ces casquettes-là, je me rends compte... au jour le jour que oui, ben il y a des oppressions assez même extrêmement fréquentes, et donc ça m'amène il y a le validisme, il y a la transphobie, mais il y a aussi le racisme. Ça ne me concerne pas directement, mais je vais faire quelque chose parce que je sais que j'affectionne beaucoup quand il y a des personnes qui ne sont pas directement concernées, mais qui viennent apporter leur aide au combat dans lequel je suis. Donc, je me dis que, si je renvoie l'appareil, ça fera du bien, en fait. C'est l'intersectionnalité des luttes. Pas que l'intersectionnalité, c'est... d'aller voir un peu les luttes qui, a priori, ne nous condamnent, ne nous concernent pas. Mais quand les luttes racistes, quand les gus racistes agissent, oui, c'est raciste, moi, ça ne me concerne pas, mais le agus raciste, très potentiellement, va être aussi transphobe, va être aussi validiste. Il y a tout qui s'entrecoupe. Donc voilà, c'est tout.
Ok, et tu milites aussi dans le collectif ACAP, c'est ça?
Exactement. Okay. Je fais partie du collectif ACAP, qui n'est pas un collectif exclusivement trans, mais beaucoup de personnes à ACAP sont des personnes trans. Il y a un certain nombre de personnes qui ont aussi des handicaps. Il y a des personnes qui sont racisées. À toutes les personnes de FACAP, on va pouvoir être concerné par pas mal d'oppressions systémiques. Et voilà, et donc c'est ce que je disais avant. Même s'il y a personne qui n'est concerné par telle ou telle oppression à FACAP, on va être solidaire quand même des autres combats qui ont lieu. Et voilà.
Ok, merci beaucoup.
Moi donc c'est Alice, je suis également à l'intersectionnalité de plusieurs oppressions, que ce soit la précarité, la grossophobie, le sexisme, les différentes formes de queerphobie. Je suis chercheuse en études sur le genre et coordinatrice d'événements sur des drag shows, majoritairement des événements queer. Donc mon aspect militant en manifestation dans la rue date davantage de mes jeunes années. Aujourd'hui, je me penche davantage sur la recherche et le fait d'informer le public, les personnes concernées, les personnes, les formats un peu institutionnels, comme on peut.
Ok, merci beaucoup. Et donc on accueille juste à temps Estelle. Pas de soucis.
Bonjour.
Tu arrives juste à temps pour pouvoir te présenter comme ça.
Impeccable. Bonjour tout le monde, pardon, désolée pour le retard. Alors moi je suis Estelle Morisot, la présidente de la Maraude du Cœur à Bordeaux. Donc c'est une asso qui vient en aide aux sans-abri et aux personnes en précarité dans son ensemble, par le biais de différents pôles d'activité, hein, comme des maraudes, des colis alimentaires, des accompagnements, et plein d'autres choses. Donc voilà, je pense que une des violences d'État, effectivement, c'est les sans-abri, quoi. Laisser les gens mourir à la rue, c'est une violence d'État, effectivement. Dans les violences faites aux femmes, c'est une des violences d'État aussi. Laisser des femmes vivre à la rue, exposées au danger, c'est une violence d'État, donc voilà, je pense que le sans-abrisme a toute sa place sur le sujet, quoi.
Ok, alors la première question, vous avez commencé un peu à y répondre, c'était quelles sont les différentes formes de violence que vous vivez au quotidien ou que vous avez vécu au quotidien, si ça a pu changer au cours de votre vie. Si vous voulez agrémenter vos propos, vos premiers propos, en donnant peut-être quelques illustrations, voilà, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole.
On peut continuer le même temps.
Ouais, ça marche.
Moi, je me situe majoritairement à l'intersection du validisme que je subis vraiment de façon constante et quotidienne, des LGBT-phobies, du sexisme, et comme je suis une personne autiste, d'un monde pensé par et pour les neurotypiques, qui sont les personnes donc qui sont ni autistes ni psychiatrisées. La majorité de mes sorties sont empreintes de validisme parce que l'espace urbain est pas du tout pensé pour les personnes en fauteuil roulant, et toutes les autres personnes non valides, que ce soit les personnes malvoyantes, etc. Mais en fait, ça mène à beaucoup de mises en danger concrètes et donc d'exclusion de certains espaces, que ce soit les escaliers, les bordures, les trottoirs qui sont trop incliné pour pouvoir circuler de façon safe, ce qui fait que souvent je me retrouve à me déplacer sur la route avec des automobilistes très très peu compatissants. Et en fait, concernant les manières de militer, ça influe aussi parce que je peux rarement aller en manif parce que déjà, voir que des personnes bipèdes en manifestation, ça veut dire que l'horizon de visibilité est extrêmement réduit, qu'on ne voit pas les obstacles arriver. En cas de charge policière, on est des proies particulièrement vulnérables. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont trouvées blessées et donc handicapées par la violence d'État directement, que ce soit avec les tirs de LBD, etc., qui forment des blessures définitives, si pas à la mort, bien sûr. Mais donc, en fait, le contexte de manifestation est particulièrement excluant. C'est celui qui est malheureusement le plus visible pour lutter actuellement, mais à part dans certains contextes à Paris, avec les dévalideuses, par exemple, qui font des actions physiques concrètes, on n'a pas tellement de cadre pour militer et on se retrouve un peu finalement à la marge des autres formes de manifestation. Et ensuite, tout ce qui est sexisme, je pense que d'autres personnes seront mieux placées que moi pour en parler. Mais ça s'imbrique un peu dans le validisme, dans le sens où comme je suis en plus perçue comme femme et handicapée, la condescendance s'en trouve vraiment démultipliée à ce niveau-là.
Ok. Et du coup, c'est pour ça que tu as choisi de militer essentiellement par les réseaux sociaux. Enfin, est-ce que tu appelles ça du militantisme d'ailleurs ? Parce que peut-être pas. Mais...
Oui. Moi, je préfère en fait donner des billes à des personnes concernées, donc des personnes neuroatypiques ou des personnes handicapées. Déjà pour s'informer sur leur propre santé mentale, sur leur propre santé psychique, pour trouver des ressources et en fait vraiment créer un cadre sécurisant et se rendre compte en fait qu'on n'est pas seul, parce qu'il y a beaucoup d'isolement qui est généré par le fait d'être neuroatypique en fait, parce qu'on n'a pas accès aux espaces, que ce soit les manifs ou alors même les contextes de soirée, qui sont des lieux de sociabilisation très grands pour les personnes marginalisées d'une manière générale. Et en fait, elles se retrouvent un peu mises au banc de ces espaces-là parce qu'il y a trop de bruit, il y a des foules, personne ne porte de masque. Ce qui est vraiment, en fait, des contextes de danger et de risque, en fait. Donc moi, mon choix, ça a été de sortir un peu, même si je continue ponctuellement à donner mon aide pour vérifier l'accessibilité des trajets de manifestation, par exemple. Moi, physiquement, j'y vais plus. Pareil, c'était dans mes jeunes années.
Et, tu parlais d'ateliers tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus si tu as des projets pour essayer de réunir du coup la communauté Andy sur Bordeaux un peu comme avec les dévalideuses à Paris, je pense, enfin, tu viens de le dire, pas forcément faire la même chose, mais créer du réel contact. Tu parlais d'atelier, du coup.
Oui, j'aimerais bien. J'avoue que moi, mon public, entre guillemets, c'est pas tant les personnes non handicapées, donc valides, ou les personnes neurotypiques, que les personnes concernées directement.
Oui, justement.
Et du coup, l'idée, ce serait de faire des ateliers... en non-mixité autour de ces sujets-là. Pareil. Parce qu'en fait, on est vachement démunis face à cette situation. Les discours maintenant s'améliorent et il y a des ressources qui sont plus disponibles, mais tout ce qui est contenu autour de l'autisme, etc., institutionnel, et les premiers auxquels on a accès quand on a un diagnostic ou quand on se pose des questions, c'est des contenus violents qui nous limitent. Et qui donne l'impression que le monde s'écroule, en fait. Encore souvent, j'ai des personnes qui me disent que ça donne une espèce de nouveau souffle d'avoir des personnes qui parlent d'autisme sans le médicaliser, et à la fois qui parlent de handicap, ben, d'une manière générale en le médicalisant à un certain point, mais aussi en montrant que c'est pas la fin du monde et qu'on peut vivre avec, en fait, tout simplement.
Ça marche, merci. Raphaël, est-ce que tu veux revenir sur les différentes formes de violence que tu vis au quotidien et quelles formes elles prennent, par exemple ?
Mais quelles formes elles prennent ? Je voulais parler de... Alors, je vais changer de sujet, je pense, un peu. C'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit, mais... J'ai vu il y a quelque temps un sketch, alors un sketch fait par un suspect dominant de toute façon, enfin, bref. Et donc le suspect qui disait que ben le monde était gentil avec les handicapés, déjà utilisé le mot handicapé, enfin bref, parce qu'il y avait une possibilité de devenir handicapé. Mais pas du tout, enfin, un moment, enfin, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire, mais tête de bite, donne ta place, si ça, c'est ta place, si déjà dans les transports, et voilà. Mais même dans les violences, une violence particulièrement grande, il y a une année ou je sais plus combien de temps, en fait, il y avait un message qui passait dans les transports TBM qui disait « Ah ben oui, le réseau TBM est entièrement accessible pour les personnes porteuses de handicap ». Ben, moi, en plus, c'est bien une année, du coup, c'est bien 3 ou 4 ans, en fait. Et à ce moment-là, l'arrêt auquel je prenais le plus souvent mon bus. Mais heureusement que je n'étais pas en fauteuil, parce qu'en fauteuil, clairement, j'aurais pu la place de tenir, ça c'est sûr. Enfin bref, non seulement pas la place de tenir, mais en plus, ben le bus n'aurait pas pu faire descendre la rampe. Alors, c'est très bien d'avoir une rampe, je ne sais pas ce que Marie pourra en dire, mais en même temps, si on ne peut pas la déplier, ça manque un peu de son principe, en fait. Ça, c'est une violence aussi. C'est une violence des institutions. On fait pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Et quand on fait un tout petit truc, on dit « Oh, c'est génial, on a fait ça !»« Regardez, on a fait ça !» Vous devez être contente. Ben, non, parce que après, il y a encore 150 choses à faire que vous n'avez même pas commencé à faire, en fait. Donc, ben, allez vous faire voir, et c'est tout. Et bref.
Okay. Et sur le... Tu t'es placée aussi comme personne transféminine. Est-ce que tu peux développer peut-être aussi les oppressions que tu subis en tant que personne transféminine?
En tant que personne transféminine, bon, ben, déjà, là, j'étais transphobe envers moi-même, déjà, ben... Avant mon coming out trans, mon premier coming out trans, et après même, en me définissant moi-même comme étant une personne, une femme transbinaire. Et après, je me suis dit, mais pas du tout, en fait, enfin, je me mégenre moi-même. Ça aussi, c'est une forme de transphobie, en fait. Et c'est une forme de transphobie, et qui va arriver quotidiennement, les personnes, une forme de transphobie, peut-être l'une des plus violentes qui me passe par la tête là, c'est les personnes qui disent « Bonjour madame ». Bon, déjà, c'est pas correct, mais c'est pas « Bonjour monsieur », donc je ne dis rien, mais voilà, qui vont m'entendre parler, qui vont dire « Alors que je n'ai absolument rien dit ». Et qui vont m'entendre parler et qui vont dire « Oh, pardon, monsieur !» Et là, je vais m'énerver en disant « Mais je n'ai rien dit quand vous avez dit « Madame ». Peut-être que vous pourriez avoir un peu de présence d'esprit en vous disant « Peut-être que c'est un peu mieux que « Monsieur ». Donc, face de bite aussi, enfin bref. Voilà, et non, et...
On va renommer le truc, ce sera les différentes phases de bite, finalement.
Oui, non, mais en plus, phase de bite, j'aime pas exactement... Ça me sort par la bouche comme ça, mais j'aime pas exactement ça, parce que ça fait référence aux parties génitales, et je suis très bien placé pour savoir que, ben, je ne vis pas très bien quand on fait référence aux parties génitales, encore plus... dans des insultes, en fait, les parties génitales, c'est pas ça qui va insulter une personne ou la profession des parents, enfin bref. Merci. Donc, voilà.
Estelle, du coup, la question, c'était quelles sont les différentes formes de violence que vous vivez ou avez vécues au quotidien, et voilà, donner quelques illustrations.
Ok, oui, bah, pas de souci, parce que j'ai, en plus d'être présidente d'asso, j'ai quand même la particularité d'avoir passé 7 ans à la rue, et du coup, j'en ai vécu quelques-unes, effectivement. Déjà, une des plus difficiles, c'est vraiment le regard des gens. Moi, je crois que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que ça fasse 2 heures ou 10 ans que vous soyez SDF, ben, en fait, les gens ils vous regardent de la même manière, parce que les gens savent pas si ça fait 2 heures ou 10 ans que vous l'êtes. Et ça a été une des premières violences que j'ai pris dans la gueule, c'est vraiment le regard des gens, le regard des institutions, enfin de tous. Ça a été vraiment très dur. Après, bah des violences policières, tout ça, oui, on en a vécu un peu. Hein, c'est de toute façon, c'est un espèce d'acharnement quotidien. Nous, on l'avait sur Bordeaux. Ils aimaient bien nous contrôler 5 fois la carte d'identité dans la même journée. Bon, ça, j'avais jamais compris, jusqu'à ce que je sorte de la rue et que, du coup, je sois de l'autre côté de la barrière et que je sois à des réunions avec la police municipale ou nationale qui sortent, parce que les violences d'État, elles sont vécues autant par les sans-abri que par les riverains. Il faut savoir que j'ai aussi la casquette de riveraine d'une place où il y a énormément de sans-abri. Et on est complètement délaissé par les pouvoirs publics à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même une violence aussi, une violence d'État, de laisser les gens vivre dans un tel désarroi. Et en fait, les gens disaient aux flics, mais enfin, il y a rien qui se passe. Vous passez 5 fois par jour, vous leur faites limite des coucous, vous regardez la carte d'identité et il se passe rien. Et un des flics avait dit, si, ça sert parce qu'en fait, des fois, ils ont des fiches de recherche. À 10h, elle y est pas, mais à 14h, elle y est. Je dis, ah, ok, d'accord, donc ça explique que vous nous contrôliez 5 fois par jour, quoi, et qui vous pousse à l'agacement. Moi, je me rappellerai d'une fois où ça m'avait vraiment gonflé, c'était déjà la 3e fois que le même policier me contrôlait la carte d'identité, donc je lui avais balancé au pied. Et du coup, j'allais me faire embarquer pour outrage à agent, et je me suis fait embarquer donc pour outrage à agent. Et on était 7 ou 8 personnes à devoir se faire embarquer, donc ils ont fait venir des voitures, et... on se serait exclu dans le sketch, alors je sais plus lequel c'est, vous savez, le sketch de la boîte de nuit, toi tu rentres pas. Et en fait, les flics qui étaient au volant des 3 véhicules sont passés devant nous tous, et ils étaient là, ah non, lui il rentre pas, il pue, hein, c'est mort. Hein. Donc ils se faisaient détacher les menottes, et c'est pas une blague, et ils se faisaient libérer. Et moi j'ai fait partie des gens embarqués, donc j'étais là, bah putain, fais chier, à partir de demain je me lave plus, au moins, je suis tranquille, quoi. Donc ça c'est pareil sur le moment... Autant je pense que les copains devaient être un peu contents d'être lâchés, mais psychologiquement, ça devait quand même être assez dur, quoi. Ça, c'était des choses qu'on pouvait vivre assez souvent. Donc, je suis partie en garde à vue. Alors, je ne saurais pas dire la durée, mais ça a été quand même assez rapide. Et pire violence que j'ai pu vivre avec un policier qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Et j'avais vraiment eu peur, hein, sur le moment. C'est quand j'étais à la rue, pareil, hein, et... En fait, il avait tendance à dire que c'était sa ville et que les grandes gueules n'avaient rien à faire dans sa ville. Et il me considérait comme une grande gueule. Et un jour, il m'a emmené dans un entrepôt derrière Monoprix à l'écart des caméras. Et il m'a dit, tu vas morfler. Alors moi, je vous cache pas que j'ai vraiment eu la trouille parce qu'en plus, sa collègue s'est mise devant la porte, dos à lui, en mode, je ne regarde rien, mais je resurveille la rue quand même, quoi. Et donc il a tapé dans les murs à côté de moi pour m'intimider et me dire que voilà, il allait me faire quitter sa ville, etc. Donc j'ai pas trop réagi parce que j'avais quand même vachement peur. Et quand je suis ressortie 2-3 heures après, bah pareil, il est repassé nous emmerder et du coup il m'a pris à part et il m'a dit tu fermes ta gueule si tu dis quelque chose à tes copains, enfin en gros que il allait me mettre la misère. Et moi je suis devenue mais complètement folle. Et j'ai dit, non, mais regardez, il me fait encore des intimidations, vous voyez, je vous mens pas et tout, nan, nan. Et là, il a regardé ses collègues, il a fait, vous me l'embarquez, hystérie sur la voie publique. Je vous promets qu'ils m'ont emmené à pied de Hôtel de Ville jusqu'à rue du Cerf-Volant, à pied. Et moi, j'étais là, ils vont faire une bavure, ils vont me tuer et tout. Et j'étais complètement stressée. Et arrivé au commissariat, bah là, je vous cache pas que j'ai eu vraiment, mais la trouille de ma vie. Il m'a jeté dans la cellule, on voit que je suis tombée contre le mur et sur le banc. Et il m'a dit, bah maintenant t'es chez moi, tu vas moins faire la maline. Alors je me suis dit, putain, il va me tuer, quoi. Et non, je pense que j'aurais vraiment préféré qu'il me mette des coups dans la gueule. Parce que ce jour-là, il m'a fait venir dans son bureau où il y avait 3 autres collègues. Et plutôt que de me casser la gueule, bah ils se sont dit qu'ils allaient me ridiculiser, que ça allait être plus sympa, quoi. Donc ils ont ressorti le casier judiciaire de mon père. Ils se sont permis de dire que il aurait dû me mettre plus de tarte dans la gueule et je serais peut-être moins une grande gueule. Ils ont sorti le casier judiciaire de ma mère et ils m'ont regardé, ils ont dit « Ah bah oui, bah c'est vrai que toi, tu peux pas finir pute hein, avec la gueule que t'as, ok ?» Et quand ils ont vu que j'avais des frères, ils se sont dit « Mais c'est bizarre, il y a rien sur les frères. » Donc ils ont un peu cherché, je ne sais pas qui c'est qu'ils ont appelé, je ne saurais jamais. Mais ils ont su que mes frères étaient handicapés en structure médicalisée. Et ils sont regardés, ils ont fait « Ah, bah cherchez pas, elle est aussi gogole que ses frères, en fait. » Et donc, moi, je faisais « Mais que pleurer !» Et j'étais mais tellement mal, je hurlais dans le bureau, au point qu'un de leurs chefs est descendu, et en demandant ce qui se passait, donc je lui explique, et il m'emmène dans son bureau, et il me dit « Oui, non, mais faut comprendre, vous savez, avec les sans-abri, en ce moment, on morfle et tout, ils ont perdu patience et tout. » Ils ont perdu patience ? Ah, je vous jure, j'étais tellement choquée, j'en ai encore le cœur qui bat, quoi. Et je remercierai jamais assez mes éducateurs de l'époque quand je leur en ai parlé. Elle a, alors je sais pas qui c'est qu'elle a appelé, mais en tout cas ça a fini que le flic en question a été muté à Mériadec. Alors c'était pas non plus à l'autre bout du monde, mais au moins il était plus dans notre quartier. Mais et lui, pour la petite anecdote, je l'ai recroisé en manif, et autant vous dire que bah, j'ai eu très très peur parce que c'était au cours d'une NAS, et c'était la seule NAS d'ailleurs que j'ai vécue en manif. Et là il me regarde, il me fait ouh, on se connaît toi et moi. Donc il prend la carte d'identité. Ah ben là j'ai flippé ma mère, je me suis dit s'il m'embarque il va me tuer. Bon bah ben, au final ils m'ont pas embarqué, je l'ai jamais revu, mais autant vous dire que c'était quelque chose qui m'avait quand même sacrément marqué, et je me suis dit mais je finis par me faire tuer par un flic quoi. Et à l'époque on avait vraiment ce truc d'entendre de la part des copains que bah des fois il y avait des patrouilles de flics qui passaient, et puis d'un coup ils descendaient de la bagnole et tabassaient comme ça, tu sais pas pourquoi, mais tu te faisais tabasser quoi. Donc ça, par chance, ça n'existe plus. En tout cas, on n'en a pas réentendu parler, quoi.
Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.
Mais pour avoir fait un tour avec avec le CLAP la dernière fois auprès de nos bénéficiaires, le mot qui ressortait régulièrement, hein, t'étais là, c'est bah à Bordeaux, au moins ils sont cool quoi. Non, ça va, ils sont cool, ils sont corrects. Alors on n'est pas là pour chercher de la violence policière là où il y en a pas, mais s'il y en avait, au moins ils savaient que on était là s'il y avait un souci quoi. Et c'est vrai que tout le temps ils disaient ah bah non ici ça va, ils sont cool. Mais parce qu'ils ont affaire à la police municipale, parce que le sans-abrisme c'est une prérogative de la police municipale sur les délits simples en fait, hein, faut le savoir. Si vous appelez la police nationale pour un sans-abri pour X raison, on va toujours vous dire d'appeler la municipale quoi. Donc à ce niveau-là ça va, mais par contre quand c'est la nationale, enfin moi je l'ai constaté de mes yeux. Enfin voilà, c'est du tutoiement en permanence, c'est la dernière fois, c'était ouais, avec des cassos pareils, on va pas aller loin. Enfin, voilà, il y a toujours un petit peu ce regard dédaignant, enfin ce truc de, ça met des gants pour fouiller au-dessus de leurs gants à eux. Hein, ils mettent des gants en latex pour fouiller les bénéficiaires et leurs sacs. Enfin, et c'est tout un tas de choses que eux ne se rendent pas forcément compte parce que ces choses-là, ils en ont pas parlé la dernière fois, mais ils y prêtent même plus attention, quoi. Donc voilà, pour faire un petit tour, par chance j'ai pas vécu 50 000 violences policières, et heureusement, mais en cette endru c'est déjà quand même assez marquant. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'accessibilité des manifestations et des lieux de lutte. Et ça me fait vraiment penser donc au problème qu'on a avec les sans-abri. Nous souvent quand on organise donc des manifestations, des marches, etc. liées au sans-abrisme, on a beaucoup de mal à les mobiliser parce que bah souvent ça va être ah mais j'ai mes sacs, ah bah mais j'ai mon chien, ah ouais mais j'ai la manche à faire, ou bon bah ça va être un peu fatigué, donc ça va être compliqué de beaucoup marcher. Et alors les lieux de lutte, même de discussion comme ça, qui sont fermés, ils y vont encore moins parce qu'ils se sentent pas légitimes d'aller dans ces lieux-là. Ils auront peur d'être mal accueillis pour l'avoir vécu. En fait, enfin, quand Zabri vous devenez complètement agoraphobe, vous perdez la totalité de vos acquis au bout de même pas quelques mois. Des gens avec des bacs plus 4 sont incapables de passer un coup de fil alors qu'ils sont incapables de rentrer dans un café pour demander quoi que ce soit. Donc rentrer dans des lieux pareils, enfin, déjà ils auraient trop peur, ils auraient peur d'être jugés, ils auraient pas envie d'être rejetés, donc enfin voilà, tellement la peur du rejet et de vivre ça que ils vont pas tenter. Et puis bah quand vivant en extérieur depuis longtemps, je prends le profil du sans-abri qui est à la rue depuis longtemps parce que enfin c'est les trois quarts c'est ça quoi. On a des nouveaux arrivants en permanence, hein, ça c'est clair, mais vous avez très peu qui sont là depuis 2-3 mois, hein, qui sont là depuis tellement longtemps. C'est ceux qui sont là depuis pas longtemps, en général, ils vont être dans les structures. En général, quand vous êtes à la rue, au tout début, vous allez peut-être avoir un petit peu de chance d'aller dans les structures, surtout quand vous êtes une femme. Mais au bout de 3 mois maximum, vous allez vous faire, vous allez vous retrouver dehors, quoi. Donc là, 3 mois, c'est déjà, c'est comme ça faisait 3 ans ou 30 ans, quoi, limite. Donc voilà, donc c'est dommage parce que bah c'est des personnes qu'il faut absolument mobiliser. Nous on le voit, on en a vraiment besoin pour faire comprendre ce qu'on essaye de faire comprendre au pouvoir public, hein. Dès qu'on fait une manif ou une marche liée au sans-abri, on est 30, 100 ou 200 grand max alors qu'ils sont 3000 dans les rues. Donc ça c'est un vrai problème. Les mobiliser sur des actions, c'est compliqué. Parce que ben s'ils ont des casiers judiciaires, si ils ont des problèmes de papier, etc., ben ils vont pas vouloir s'exposer, c'est complètement légitime. Donc c'est toujours très compliqué de faire une action sans la personne concernée en plus, quoi, de parler en son nom sans qu'elle soit là, c'est une autre particularité dans la lutte qui est pas simple. Alors moi ça va, en tant qu'ancienne élève, je me sens un peu plus légitime que d'autres. Mais c'est le constat que font toutes les assos. Ben quand on fait un truc pour eux, on est que nous, quoi. Et ben est-ce que ça enlève de la légitimité, est-ce que ça enlève de la crédibilité? Je pense pas à nos yeux à nous, mais peut-être aux yeux des autres. Et ça c'est dommage parce que c'est eux les mieux placés pour porter leurs paroles et leurs problématiques. Parce que autant vous dire que les problématiques que j'ai vécues il y a 14 ans, parce que je suis réinsérée depuis 14 ans déjà, ce que j'ai vécu il y a 14 ans et ce qu'ils vivent actuellement, enfin, je suis pas sûre que j'aurais fait 7 ans à la rue actuellement, quoi. Il règne un degré de violence qu'on n'avait pas nous à l'époque. Là, la violence est un peu entre eux, elle est des citoyens autour, etc. Mais en plus de la violence des citoyens et des institutions qu'on pouvait vivre il y a 14 ans, maintenant ils vivent de la violence entre eux, quoi. Donc c'est pas évident.
T'expliques voilà. Ça comment ce changement?
Je pense par l'évolution des choses. On voit bien que dans la société en général, la violence elle s'est complètement accentuée. On le voit sur sur d'autres sujets, par exemple sur dans les cités, par exemple, enfin il y a 30-40 ans, il y avait pas des femmes qui se tapaient sur la gueule, ou il y avait pas des bandes de femmes comme ça. Et là on le voit bien, même les femmes maintenant elles se tapent sur la gueule. Enfin il y a un gros degré de violence, je trouve, dans la société. La violence elle est complètement décomplexée maintenant, que ça soit chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez la violence elle est décomplexée, elle est de plus en plus légitimée. Chose qu'il y avait peut-être moins avant, il y avait plus, je sais pas, hein, ça doit jouer sur peut-être plein de choses, sur l'éducation, les gens travaillent maintenant, donc peut-être l'éducation est faite différemment, j'en sais rien, là ça a des problèmes qui me dépassent, où je suis pas hyper calée sur le sujet, donc je voudrais surtout pas dire des conneries, avoir des propos qui peuvent paraître déplacés. Mais on voit bien que la violence elle s'est accrue dans la société, quoi, donc même entre eux. Et puis elle est accrue parce que les difficultés sont beaucoup plus grandes, donc maintenant il y a beaucoup de... Alors, c'est étonnant, hein, je sais pas pourquoi, parce qu'on manquait aussi à l'époque, mais vraiment ils vont se voler les affaires entre eux, c'est la moindre chose elle va être jalousée, alors qu'il y a des choses qui se passent en mieux. Par exemple, il y a 14 ans nous on avait zéro assaut de maraude. C'est-à-dire, on avait les Restos du Cœur et la Croix-Rouge, autant pour moi, qui passaient une fois par mois l'hiver. Maintenant, on a une asso. Alors, je parle pour Bordeaux parce que sur 7 ans de rue, j'en ai fait 5 à Bordeaux. Donc voilà. Et là, actuellement, on est à une maraude par jour, voire 2 maraudes par jour, quoi. C'est ça qui est assez ouf. D'un côté, ben, il y a des choses qui se passent pour les aider, mais tu vois, il y a quand même cette espèce de violence et je vais voler le moindre truc que l'autre il a, mais que je n'ai pas. Alors que justement, enfin, à l'époque, moi, j'avais pas la chance de pouvoir avoir une asso pour demander une toile de tente, un duvet ou quoi que ce soit, fallait tout que j'achète. Donc, j'ai jamais vécu en toile de tente quand j'étais à la rue. J'aurais aimé trop kiffer. Donc voilà, il y a je pourrais pas expliquer tout pourquoi, mais voilà.
Ok. Et juste, tu as dit tout à l'heure que parfois elles étaient interpellées à 10h et à 14h parce que elles disaient qu'entre-temps il y avait des avis de recherche. C'est quoi les motifs des avis de recherche qui leur tombent dessus?
Bah souvent c'est un peu les mêmes trucs, hein. Ça va être des problèmes de bagarre, de vol, d'amende. C'est complètement aléatoire, quoi. Les fiches de recherche, elles sont déclenchées, si je dis pas de conneries, par les commissariats ou par les tribunaux, j'ai un doute, mais dès qu'en gros tu fais une connerie, si on te trouve pas et qu'il faut que tu passes au tribunal, en gros on va déclencher une fiche de recherche. J'ai découvert il y a quelques jours qu'on pouvait même en avoir plusieurs et même plein, parce que j'ai un bénéficiaire qui s'est fait interpeller dernièrement qui avait 36 fiches de recherche. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc il était recherché dans 36 villes, le type, pour certains, c'était démentiel, des amendes, des bagarres, des vols, je savais même pas qu'on pouvait avoir autant de fiches de recherche, vraiment. Donc quand le collègue a demandé au policier pour combien de temps il partait, il a dit oula, on sait pas, mais au moins 3-4 ans, quoi. Okay. Alors comment ils ont évalué le 3-4 ans? Parce que la personne devait garder son chien, donc elle s'est dit mais il part combien de temps? Tu peux déjà adopter le chien, je pense, en fait.
Les chiens,
ouais. Ben c'est voilà, donc là c'est pas effectivement sur l'humain, mais alors la violence sur les chiens, ça c'est autre chose, et les violences d'État sur les chiens, elle est un peu différente, mais oui, effectivement,
hein, sur le lien humain chien,
ouais, le lien humain chien il est hyper important. Donc à partir du moment où on va lui enlever son chien, ça va être hyper hyper dur pour lui. Et c'est vrai que quand c'est un sans-abri ou un citoyen, le dossier va vraiment pas être traité de la même manière, quoi. Il suffit qu'il y ait un signalement pour maltraitance ou des trucs comme ça, ils vont même pas chercher plus loin. Ah, il est SDF, oui, c'est sûr, il le maltraite, cherche pas, quoi, tu vois. Tandis que c'est un citoyen lambda qui a un domicile, machin et tout, on va être obligé de faire une enquête un peu, tu vois. On va pas pouvoir faire n'importe comment. Le chien de sans-abri, on lui retire quasiment son chien comme ça. Mais à côté, sur d'autres trucs, ils traînent de la savate, tu vois, parce que là, au Palais des Sports, depuis un mois et demi, on a 3 chiens qui sont extrêmement dangereux, au point que le propriétaire ne les gère même pas, parce que c'est pas lui, d'ailleurs, le mec est en prison, donc il garde les chiens d'un autre gars qui est en prison, sauf que les chiens, ils gèrent pas, donc du coup, les chiens agressent tout le monde, mais il agresse lui aussi, donc on a déjà eu plusieurs personnes agressées, plusieurs chiens agressés. Mais à côté de ça, ben, la police municipale et l'adjoint, ben, ils galèrent à faire retirer les chiens. Par contre, l'autre, la semaine dernière, tu lui as retiré son chien en 30 minutes parce que la voisine, elle a appelé en disant qu'elle avait vu le taper. Alors que nous, on dit que non, au contraire, à chaque fois qu'on passe, elle est hyper gentille avec son chien, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, c'est...
Deux vitesses, quoi.
Voilà, c'est un truc un peu à deux vitesses, quoi. C'est assez bizarre, quoi. Donc, bon, après, la difficulté, peut-être sur le fait qu'il y ait 3 chiens, j'ai cru comprendre qu'il y ait 2 chiens qui étaient à un et à un autre chien, à un autre proprio. Donc là, c'est encore des trucs qui nous dépassent tous, je pense. Mais oui, les violences d'État liées aux sans-abri, elles sont hyper multiples, quoi. Elles sont pas faites que par les policiers, elles sont faites... Bah déjà en premier lieu par les institutions, par exemple la préfecture qui nie en bloc les chiffres avancés par les assos, mais également par la mairie de Bordeaux. Ça c'est quand même assez fort, quand même. C'est qu'ils sont même dans le déni sur ce que peut sortir la nuit de la solidarité, alors que c'est fait par le CNRS, la mairie de Bordeaux, machin, que le bénévole lambda il a pas le droit de remplir le petit papier et tout. Enfin, c'est fait par des agents assermentés. Il y a même des agents de la préfecture qui sont là, mais ils arrivent quand même à contester ces putains de chiffres. Et en les contestant, ben, ça évite de donner de la thune, hein, et de dire, ben, y a un problème, quoi. Okay. Puis en général, ce qu'ils aiment bien se dire sur le sans-abrisme, c'est oui, mais de toute façon, les 3/4, ils ont pas envie de sortir de la rue. Ben, c'est sûr que c'est plus facile de penser ça, parce que si en plus tu faisais croire à l'opinion publique, enfin si tu faisais comprendre à l'opinion publique que tous les sans-abri voulaient sortir de la rue, ben tu serais dans la merde parce que tu devrais faire ton taf, quoi. Sûr qu'en disant que les trois quarts ne veulent pas, ben c'est plus facile, le petit quart on s'en fout un peu, quoi. Voilà, pas monopoliser la mais parole, mais dans son ensemble.
Alice, est-ce que tu
enchaîner?
Difficile de rebondir la crise des fois, je comprends.
Ouais. La question, c'était quelles sont les différentes formes de violence que tu vis au quotidien et enfin comment t'en as pris conscience sur ton corps, etc.
Les toutes premières, je dirais que c'est la précarité. En grandissant, se rendre compte des jeunes, des manques d'argent, des difficultés autour de ça. Mais bon, au milieu de la campagne, c'était pas l'endroit le plus compliqué pour faire malgré ça. Ensuite, ça a très vite été la question de la féminité et des violences masculines, qui s'est rapidement mêlée aux questions de grossophobie, de genre. Donc c'est là le thème de ma recherche, du travail de l'intersectionnalité entre grossophobie et sexisme et la façon dont ça influe la création de son rapport à son genre, qui est un thème un peu compliqué. Mmh. À traiter majoritairement parce qu'il n'existe quasiment rien dessus, et que je suis allée chercher parce que il y a une très grosse frustration qu'on connaît pour une grande partie des violences masculines qu'on peut vivre en tant que personne perçue comme femme, en tant que personne de minorité d'orientation sexuelle. Cette frustration, elle est plus grande, elle n'est pas plus grande, mais elle est différente encore quand on est une personne queer et quand on est une personne grosse, parce que on s'éloigne encore plus des caractéristiques de la victime idéale. C'est-à-dire que les différentes violences que j'ai pu vivre personnellement ont tout de suite été niées ou dénigrées avec l'idée sous-jacente de « bah c'est pas possible » parce que qui voudrait qu'il y ait une grosse ? Et cette violence-là qui existe socialement, elle existe aussi évidemment auprès des institutions policières. C'est à aucun moment je n'étais pris au sérieux par les différentes institutions de police que j'ai pu avoir pour les différents faits de grossophobie ou de sexisme ou de qui pouvait advenir. J'habite quasiment à côté d'un commissariat et on voit les policiers être tout à fait distants face au moment où quelqu'un, le moment où je peux sembler un peu en détresse face à des personnes qui pourraient venir dans une volonté, on va dire, agressive, de harcèlement de rue. Sachant que le harcèlement de rue, en tant que personne perçue à la fois comme femme et comme grosse, diffère des personnes perçues à la fois comme femme et comme mince. Parce que je vais personnellement beaucoup moins vivre le harcèlement de rue que je vais appeler le harcèlement de rue compliment, le harcèlement de rue drague. Parce que à travers la grosseur, il va y avoir une négation de la féminité qui est perçue socialement. Donc si on se met à draguer quelqu'un qui s'éloigne de la féminité, on s'éloigne de la masculinité. Et c'est l'exact inverse de ce qui est recherché à travers le harcèlement de rue, qui est une preuve de la domination masculine sur le corps féminin, avec des grosses guillemets, féminin en ce qu'il est différent du masculin dans l'espace public. Donc ça, ce sont différents aspects des choses que je peux avoir le plus souvent. Pour revenir sur les transports en commun, trouver une chaise où mon gros cul n'est pas complètement inconfortable est un combat de chaque instant. c'est tout con, mais ça change énormément de choses. Dans les transports en commun, c'est tellement souvent que je dois rester debout, et puis debout, je sens que je vais rapidement bouger. Si j'ai mes règles en même temps, il faut absolument que je m'assieds, parce que sinon je vais m'écrouler. Mais si on sent que je vais m'asseoir, je vais ressentir le regard de tout le monde. Et ben voilà, ça vaut le coup de faire du sport et de manger des gâteaux. qui a un rôle pour la notion de regard qui était dit tout à l'heure, effectivement, qui est constante. Le regard social qui va créer la marginalisation et qui va, à travers cette marginalisation aussi, créer une forme de négation de l'identité propre. C'est à travers ce regard-là, qui soit partagé par les gens qu'on croise dans la rue, par les proches, par les institutions, que y a toute une part de la perception de soi qui va se retrouver fragilisée. au point où ça va venir attaquer l'identité. Et pour l'aspect des violences policières, peut-être un peu plus direct, c'est quand j'étais sur Dijon que j'étais nettement plus engagée dans les différentes mobilisations dans la rue. Et typiquement période des gilets jaunes, et oui, le nombre de fois où j'ai eu peur pour ma vie. Bah, je suis blanche et quand je vais en manifestation, je me déguise en bourgeoise, donc je me fais pas embarquer.
Ça marche bien.
Ah, c'est complètement le cas, hein, vraiment. Mais oui, des grands mouvements de foule, les objets qui tombent à 10 cm de toi, les trucs qui balancent du gaz partout, les pipes qui tirent dans le brouillard pour être sûr de toucher le plus possible, les gamins arrêtés à coups de pare-choc, ouais, toutes ces genres de joyeuseté qui ont clairement marqué. Je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais moins en manif aujourd'hui, parce que j'ai peur d'y aller. Okay. J'ai tellement de violence, tellement de moments où j'ai été terrifiée, que même quand ce sont des manifs que je connais qui sont plus calmes, je sais qu'elles sont sûres, entre guillemets, sur l'aspect des violences qui pourraient être commises contre, et ben ça reste un peu un trauma, d'une certaine manière, je dirais.
Et est-ce que tu peux donner un peu plus d'explications sur tes premiers résultats de recherche actuellement sur l'intersection entre le sexisme, la grossophobie, parce que quelle est la place de l'État là-dedans aussi, peut-être? Ouais.
Alors c'est compliqué d'avoir des premiers résultats de recherche parce que c'est la première fois que quelqu'un dans la recherche francophone part sur ce sujet-là, donc je pars littéralement de zéro. Donc, c'est très compliqué de pouvoir donner des éléments, de pouvoir dire scientifiquement, je suis en train de prouver que ça. Enfin, prouver ça. Parce que, dans les faits, non. J'ai absolument pas les capacités, là, moi tout seul, avec mes moyens de faire ça. Mais ça fait aussi partie des éléments. C'est à quel moment cette recherche qui est importante, qui touche énormément de gens, j'ai aussi peu de moyens, aussi peu de possibilités de la faire. Et dans les violences numéro une, je dirais que les personnes à la fois de minorité de genre et qui subissent la grossophobie les différentes discriminations vont être décuplées. Des difficultés à trouver un travail, on va faire un x14, même par exemple en téléachat.
Ok.
Genre, à quel moment le fait d'avoir du poids devrait changer quoi que ce soit, le fait de passer un coup de téléphone. Pour les violences médicales, également, c'est du x10. Et encore là, c'est sans prendre en compte l'intersectionnalité de l'ethnie ou de la race, parce que on peut encore faire un x20 avec ça. Aussi, oui, dans les personnes perçues comme femmes et personnes comme grosses sont parmi les plus à risque jeunes de vivre des violences à travers des coups, à travers des violences sexuelles, sont aussi les personnes qui vont être statistiquement les moins entendues par les représentations, par la police, et qui vont aussi être les moins représentés dans les systèmes étatiques, dans les lois, dans les représentants légaux, y compris pour des éléments où on pourrait croire qu'il n'y a pas de lien direct, par exemple pour la PMA. Vouloir faire une PMA en étant grosse, laisse tomber. C'est littéralement impossible. Absolument tout ce qui existe, qui va être du sein d'une institution, va transformer le discours en « le but c'est que tu maigrisses ». Que ce soit l'État, que ce soit ton médecin, que ce soit tes parents, que ce soit le monde entier veut que tu maigrisses. Parce qu'il faut que tu disparaisses. Et c'est aussi complètement le cas à travers l'État qui utilise encore aujourd'hui, à travers le monde de la médecine, quelque chose d'aussi aberrant que l'IMC. L'indice de masse corporelle. Donc pour revenir dessus, l'IMC, ça a été inventé par Kettley en 1857. Le mec n'est pas médecin, il est statisticien. Son but, c'est faire des tableaux où il peut mettre le plus d'infos sur les gens pour faire des comparaisons entre les races. 19e siècle. Et il y a tout le monde qui a fait « Eh, c'est vachement bien !» On va garder ça, on va faire aucune différence selon les capacités sportives de la personne, selon le genre, selon l'ethnie, selon les différentes formes de handicap, selon les variations morphologie, selon les... YOLO. On a vraiment dit non, on va faire un calcul débile qui est basé sur rien, et on va calibrer l'entièreté du système médical là-dessus. Le terme d'obèse, ça vient de là. Obèse, c'est quelqu'un qui a plus de 35 kilos par mètre cube. C'est ça, le principe de l'IMC, c'est calculer le nombre de kilos par mètre cube. Donc si t'es à plus de 35, selon ce calcul qui, on le rappelle, n'est fondé sur rien, tu es techniquement obèse. C'est pour ça que j'utilise les termes... Oui, d'ailleurs, c'est une bonne... J'utilise le terme gros et le terme grosse depuis le début, alors que c'est beaucoup utilisé comme un terme violent, qui est utilisé comme une insulte, simplement parce que le terme obèse, pour moi, est nettement plus insultant, parce que c'est une médicalisation de juste une variation corporelle qui est naturelle. Le fait de posséder du gras, c'est plus bon pour la santé que le fait d'être, que le fait de ne pas en avoir, c'est juste, ou même dans ce cas où on n'en a pas, simplement, la norme, vouloir poser une norme en mode l'être humain est supposé ressembler à ça, il est censé avoir tel taux de gras, c'est stupide. Voilà. Si je peux amener quelque chose scientifiquement, je veux dire, imposer une norme de gras, c'est stupide. C'est mon avis de professionnel. Et oui, absolument tout est basé là-dessus.
Et le refus de PMA pour les personnes dites grosses, du coup, ouais. Ça s'appuie sur quel argument théorique ?
C'est toujours la question de l'obésité. Il existe effectivement très très peu d'études qui prennent en compte les gens gros. Tout comme il existe peu d'études médicales qui prennent en compte les femmes, avec des guillemets dans la vue bien essentialisante de la médecine occidentale, parce que c'est trop compliqué, avec des guillemets. La plupart des médicaments qui existent aujourd'hui, notamment les médicaments pour tout ce qui est problème cardiaque, sont majoritairement testés sur des hommes, parce que il y a ce côté, il n'y a pas la variation du cycle qui peut créer des changements sur les résultats. Du coup, les femmes sont plus à risque de voir des mauvais traitements, des traitements qui sont pas efficaces, parce que les tests ne sont pas faits pour eux. C'est la même chose avec la grosseur. On met pas les personnes obèses, avec des guillemets, dans les tests, parce que ça pourrait changer les choses, mais du coup, à quel moment est-ce qu'on va me dire, à moi qui fais plus de 100 kilos, de prendre le même antidouleur que quelqu'un qui en fait 50? C'est juste pas courant, et c'est aussi des choses qui sont pas prises en compte pour les éléments de sécurité, pour les airbags, pour les ceintures de sécurité. Je sais par exemple la présence d'une poitrine, souvent en plus quand on est grosse, voilà, il y en a, oui pardon, il y a pas à y avoir le geste délicat au son et qui va complètement jouer sur la pression que va faire l'airbag. Et une grosse partie des personnes qui vont le plus mourir en accident de voiture quand c'est face à un airbag, ce sont les femmes, les personnes à forte poitrine, parce que ça va faire une compression qui va venir bloquer le thorax. Okay. Qui va venir faire une compression d'un coup qui va être violente et qui va créer des accidents très dangereux, voire mortels. Et on peut appliquer ces petites choses-là sur littéralement tout. Que ce soit du très grave, comme ça, où littéralement, du coup, il y a juste beaucoup plus de chances de mourir, plus de chances d'être en mauvaise santé. Et ensuite, on vient nous voir avec, mais vous voyez, les gros, ils sont davantage en mauvaise santé. C'est qu'être gros, c'est dangereux pour la santé. Bah non, débile. Arrête de faire en sorte qu'on soit en mauvaise santé. Et ensuite, on va se poser des questions. Et aussi, dans des moments nettement plus lambda. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais la dernière fois, je suis allée au cinéma. Et juste, j'ai voulu m'asseoir dans le siège. Oups. Je me suis assise 2 secondes et je suis devenue blême. Je me demande, merde, si je reste assise dans ce siège, genre, je vais pas pouvoir rester plus de 2 minutes. Et j'ai dû aller m'asseoir sur un siège pour 2 personnes. Ça peut paraître con. Et bah, ça m'a foutu les boules, putain. Ce truc de genre, merde, je vais en voir le dernier Miyazaki, je suis très content de le voir, c'est un joli film, j'aime bien l'animation, je veux pouvoir poser mon cul sans avoir peur d'avoir mal, sans avoir les putains de bleus sur les hanches, sans avoir la compression qui fait qu'en plus tu vas mal respirer, sans le truc du coup tu vas crever de chaud en plus quand t'es dans un presse bétail comme ça, genre tu crèves de chaud très vite, j'étais pas au milieu d'un date, mais je l'avais quand même pas envie d'être, d'être à ce point. Et on a eu de la chance, il y avait un siège pour deux qui était disponible. C'est pas moi qui ai demandé à mes potes, c'est mon pote qui a vu que j'étais pas bien, qui m'a dit, attends, on va aller se mettre plutôt là, comme ça, tu te poses et t'es bien. Mais je pense que s'il m'avait pas demandé, s'il m'avait pas proposé, j'aurais pas osé demander. Alors que c'est mon métier d'étudier ça, alors que c'est mon fer de lance constamment, j'engueule constamment tout le monde. Quant à la grossie, la grossophobie, c'est une certaine constante. Et bah, elle reste profondément internalisée. À travers plein d'éléments. Et c'est souvent quand c'est sur des petites choses du quotidien que je n'avais pas vu venir qu'il y a un moment de, ah merde, finalement, ça continue de me dépasser de temps en temps.
Je te rejoins, hein, le validisme intériorisé, c'est vraiment un truc aussi. Et t'en viens à penser ça de toi-même, malgré tout ton militantisme, malgré tout ce que t'essayes de déconstruire. Ah
ouais. Et c'est bizarrement, parfois encore plus violent. Genre, je me rappelle, il y a eu clairement une étape dans ma vie où, genre, je m'engueulais quand j'allais pas bien. Parce qu'il y a un côté, non, que dalle, le petit côté body positive, avec toute la... tous les problèmes qu'il y a derrière le body positivisme, ce truc, t'as pas le droit d'aller bien, ton corps il est parfait, t'es génial, si tu vas pas bien, ça veut dire que c'est patriarcat qui a gagné, il y a un moment de ta gueule. Genre, non, lui je me dis ta gueule de temps en temps, quand je le dis pas aux autres nettement plus souvent. mais ce truc là de, non, ça veut dire que si j'étudie ça, si je milite contre ça, c'est parce que j'ai pris conscience de la violence que c'est pas parce que j'ai conscience de cette violence qu'elle va arrêter d'être violente contre moi. C'est normal aussi de continuer. Tant que ce truc-là existe, j'ai envie de dire, forcément, il y a des moments où ça va nous entendre. Ce serait impossible autrement.
Je pense que autour de cette table, dans différentes formes, encore une fois, il va y avoir aussi cette internalisation de la violence et qui va parfois se retrouver contre nous. On se dit que dans tous les cas, c'est bien ce qu'on mérite ou qu'on mérite pas forcément mieux, plus d'attention, plus de considération, en fait, pour nos existences, quoi.
À suivre.
Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé. Un vent mauvais l'a emporté. Je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Aussi il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La 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 la. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe. barrières tombent et nous aurons la liberté.
Soin de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se sent?
¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva?
Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso?
Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo.
El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps.